Alors, ce matin, nous en sommes à Marc 14. La dernière fois, je vous avais dit avec Marc 6 que c'était un chapitre un des plus longs. Marc 14, il y a 72 versets. Il y a beaucoup de choses dans Marc 14. Beaucoup de choses. Et la dernière fois, donc, que j'ai parlé sur Marc, je vous ai proposé un passage un peu moins connu avec l'assassinat de Jean-Baptiste. Et cette fois, je vous propose que l'on s'arrête sur l'un des passages que nous connaissons le plus en tant que chrétiens évangéliques. Celui de l'instauration de la Sainte Cène. Alors, ça sera beaucoup de rappels, mais cette instauration de la Sainte Cène a une signification qui est, je pense, quasi la plus importante de l'Évangile. Et j'oserais dire pour ma part aussi que peut-être qu'on le connaît un peu trop d'ailleurs, ce passage. Je dis cela car le risque est que, à force de l'entendre, que cela devienne un acte mystique auquel on pourrait attacher des fausses croyances qui nous détourneraient de la foi en Jésus-Christ seul. Ou bien que ça devienne juste un rite religieux ayant perdu toute sa signification. Alors, la forme importe au final que très peu devant le sens réel, et je n'entrerai pas ce matin dans les débats sur la forme, la fréquence, l'occasion de partager, le type de pain, le type de contenant, est-ce qu'on trempe le pain dans le vin, etc., etc. On restera simplement sur le sens de la Sainte Cène. Et j'aimerais ce matin que l'on obéisse au Seigneur et que l'on se souvienne, comme le Seigneur nous le demande, de 9 aspects de ce symbole qui représentent des réalités spirituelles si riches pour chacun d'entre nous. Alors je vous propose que nous puissions lire Marc 14, les versets 22 à 25. C'est celui du haut, Max. Il est en train de planter, tout va bien. Donc, Marc 14, versets 22 à 25. C'est parti. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Alors, le premier aspect que j'aimerais souligner, c'est que Jésus est l'initiateur de la Sainte Cène. Juste avant son arrestation et sa mort, Jésus va prendre le temps de nous laisser cette pratique. Alors là, c'est le tableau de Michel-Ange. La scène en latin désigne un repas, et plus précisément le souper, c'est-à-dire le repas du soir. La Sainte Cène est donc le repas consacré au Seigneur. Alors, une parenthèse importante, dans la doctrine catholique, la Sainte Cène fait partie des 7 sacrements catholiques. Il y a 7 sacrements dans la doctrine catholique. Et le sacrement dans la doctrine catholique va effectuer vraiment ce dont il est le signe. Je répète, le sacrement opère ce dont il est le signe. Par exemple, le fait de se faire baptiser rend chrétien. Ok ? Et le fait de prendre la Sainte Cène intègre à l'Église. il n'y a pas besoin forcément de vraiment y croire, puisque le sacrement opère directement ces choses-là. Comme si le salut serait accessible par des œuvres. Et c'est là la problématique. Ainsi, pour éviter les amalgames, nous préférons dire que la Sainte Cène est une ordonnance du Seigneur Jésus. Le terme grec utilisé pour la Sainte Cène est l'Eucharistie. J'ai deux, trois mots barbares comme ça, hein, vous allez voir. Qui signifie action de grâce. Ou bien, autrement dit, remerciement. Les participants au repas du Seigneur vont donc obéir à cette ordonnance du Seigneur et exprimer leur reconnaissance pour ce que représente le pain et le vin. Nous avons besoin de repères dans notre monde qui va si vite. Et Jésus avait anticipé le fait que, d'après une citation dont je ne connais pas l'auteur, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. On finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Dans Luc 22, on voit que, qui est un passage parallèle de l'instauration de la Sainte Cène, on voit que Jésus va préciser de prendre la Sainte Cène en souvenir de lui. C'est donc un mémorial laissé par le Seigneur pour se rappeler de l'essentiel, c'est-à-dire de l'œuvre de salut manifestée en Jésus-Christ. Alors le deuxième aspect, c'est que l'instauration de la Sainte Cène s'effectue pendant qu'il mangeait. Si on remonte un petit peu dans le texte, on voit pendant qu'il mangeait quoi ? Le repas de la Pâque. Pendant qu'il mangeait le repas de la Pâque. Donc nous sommes dans un contexte de la fête de la Pâque juive. Et Jésus et les disciples étaient en train d'observer, d'après Deutéronome 16, verset 1, « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Pourquoi célébrer la Pâque pour les Juifs ? Exode 12, verset 13. « Cette nuit-là, dit l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le mot « Pâque » vient du mot hébreu, excusez, j'ai pas l'accent hébreu du tout, « Pessa ». Et « Pessa », c'est l'action de passer par-dessus. Autrement dit, d'épargner, de protéger. Ainsi, la Pâque juive est une fête qui rappelle aux Juifs que Dieu les a délivrés des Égyptiens et les a fait passer de l'esclavage à la liberté, tout en les protégeant de la mort de leur premier-né. Cet arrière-plan de la Pâque juive est primordial pour comprendre la Sainte Cène. Jésus va donc se présenter comme l'agneau parfait qui va délivrer de l'esclavage du péché une fois pour toutes et nous épargner la mort spirituelle. Jésus va donc se présenter comme l'agneau parfait qui va délivrer de l'esclavage du péché une fois pour toutes et nous épargner la mort spirituelle. Alors, bien qu'il existe un parallèle spirituel proche entre la Pâque juive et la Sainte Cène, ce que va instituer Jésus lors de ce repas est complètement nouveau. Une parenthèse. Ceci est mon corps, ceci et mon sang. Ces expressions sont sujets de discorde. La doctrine catholique parle, je prends ma respiration avant de dire le mot, parle de transsubstantation. C'est bon, ça va tout le monde? Transsubstantation. Ce qui veut dire qu'au moment de la célébration de la scène, le pain et le vin vont réellement se transformer en corps et en sang de Christ. Transsubstantation, transformation en corps et en sang de Christ. Certains protestants, à la suite de Luther, qui pensaient différemment, on va dire, croient à la consubstantation. C'est-à-dire que le pain et le vin ne sont pas transformés, mais que le corps et le sang de Christ sont néanmoins présents physiquement dans le pain et le vin. La plupart des évangéliques que nous sommes pensent comme un autre réformateur qui s'appelait Zwingli, qui est suisse, merci aux Suisses, que ceci est mon corps est plutôt une figure de style, une expression imagée. Si je vous dis, ceci est mon fils, vous allez comprendre que la photo n'est pas mon fils, d'accord? Mais vous allez comprendre que Elliot, en tant que personne, est mon fils. Ok? Néanmoins, nous considérons que lors de la célébration de la Sainte Cène, Christ est réellement présent par son esprit et en communion avec tous ceux qui la prennent. Alors le pain. Le pain, c'est l'aliment de base dans la culture juive et pour nous aussi qui sommes de culture judéo-chrétienne. Je vois pas Pénélope ce matin, mais pour les Asiatiques, par exemple, ça serait pas vraiment le cas. Mais nous sommes dans un contexte de culture juive et pour nous qui sommes de culture judéo-chrétienne, ça nous parle. Le pain, c'est l'aliment de base. Le pain, c'est symboliquement la force et l'endurance qu'il procure à ceux qui le mangent. Et donc, quelque part, c'est ce qui procure la vie. Le pain procure la vie. Le pain, c'est ce qui est vraiment important face aux détails de la vie. Et c'est tout ce qui s'oppose à la tentation que nous pouvons avoir de rajouter des choses qui ne sont au final que peu importantes. Ainsi, cette image du pain nous projette sur le fait que Jésus est la base de notre vie nouvelle. Il est pleinement capable et suffisant pour nous apporter force, endurance, réconfort. Et que si parfois nous pouvons souffrir de malnutrition spirituelle, c'est parce que nous nous éloignons de lui et nous nous nourrissons d'autre chose que de lui et de sa parole. Que nous puissions chacun être encouragés ce matin et dans cette semaine et dans la suite à nous nourrir au quotidien de lui et de son amour pour nous. Que nous puissions nous nourrir de lui et de son amour pour nous au quotidien. Le vin. Ceci est mon sang. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang des sacrifices avait une efficacité valide pour une personne pendant un an et encore. Et encore, le sang de Christ, lui, est pleinement suffisant pour nous purifier une fois pour toutes et remporter la victoire sur la mort et le péché en nous délivrant de son esclavage. Le vin est le sang de l'Alliance, c'est dit dans le texte de Marc, de la Nouvelle Alliance. C'est la Nouvelle Alliance qui a été annoncée par Jérémie, on voit ça en Jérémie 31, les versets 33 et 34. c'est la description de la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Le Seigneur déclare encore, « Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le Seigneur déclare, « Personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain ou son frère en disant, « Connaissez le Seigneur. En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. » Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Cette nouvelle alliance, Dieu en est le créateur, le réalisateur, le promoteur et l'assureur. Dieu en est le créateur, le réalisateur, le promoteur et l'assureur. Et toi, tu en es le bénéficiaire. Le vin, c'est aussi le rappel d'un événement festif. En effet, c'est un sujet de joie d'être au bénéfice du sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Alors le diable essaie, lui, de nous attrister ou de nous culpabiliser pour nous priver de participer à cette fête communautaire. Mais la scène te rappelle que tu es sur la liste des invités à la fête de Dieu. La scène te rappelle que tu es sur la liste des invités à la fête de Dieu. Alors une remarque. Souvent on va dire un peu par abus de langage, et on le dit, et je le dis régulièrement, que nous allons prier pour le pain et le vin. Les prières qui accompagnent la scène sont des prières de remerciement directement adressées à Dieu pour ce que représentent le pain et le vin. Sixième aspect. Jésus-Christ leur donna. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Lawrence Edward Grace Watts. Il est né le 17 mars 1880 à Putney et il est mort le 17 mars 1912. C'est un explorateur anglais du pôle sud qui a fait partie de l'expédition Terra Nova. Sur le chemin du retour du pôle en janvier, février et mars 1912, l'équipe fait face à des conditions météorologiques très difficiles. Après la perte d'un homme, Edgar Evans, Watts est atteint par la gangrène et par des gelures importantes, notamment aux pieds, jusqu'à être bien plus affaibli que les autres. Il ne se plaint jamais et cache les dégâts du froid sur ses pieds seulement 3 jours avant sa fin. Ces progrès lents, conjugués à la réticence de ses 3 autres compagnons de le laisser, causent un retard sur les prévisions. Il propose même qu'on l'abandonne sur place avec son sac de couchage le 16 ou 17 mars 1912, puis espère s'endormir pour ne pas se réveiller le lendemain. Finalement, Watts, reconnaissant la nécessité de se sacrifier afin de donner aux autres une chance de survie, quitte délibérément la tente la nuit précédant son 32e anniversaire, en disant « Je vais juste dehors et cela pourra prendre un certain temps. » Et se laisse mourir dans un blizzard atteignant les moins 40 degrés. Les autres membres tentent d'aller le chercher. Sans succès. Scott, qui est le chef de l'expédition, notera dans son journal « Nous savions que le pauvre Watts sortait pour mourir. Mais bien que nous eussions essayé de l'en dissuader, nous savions qu'il s'agissait de l'acte d'un homme courageux et d'un gentleman anglais. » Cependant, le sacrifice d'Watts ne permet pas à l'équipe de survivre très longtemps. Scott et ses hommes meurent environ 12 jours plus tard, le 29 mars 1912, alors piégés dans un autre blizzard, les empêchant de se ravitailler au prochain dépôt de nourriture pourtant seulement à 13 miles. Quelle histoire! Au-delà du courage de Watts, cette histoire m'interpelle sur le sacrifice, au final, inutile de Watts. Le fait que ses compagnons n'aient pas réussi à rallier le dépôt de nourriture est peut-être lié au fait qu'il n'ait pas accepté assez tôt le sacrifice de Watts. Ils ont alors perdu du temps et de l'énergie qui leur a manqué à la fin. N'est-ce pas ce qui arrive à tous ceux qui se tiennent éloignés du sacrifice de Jésus-Christ pour leur vie? N'est-ce pas ce qui arrive à tous ceux qui se tiennent éloignés du sacrifice de Jésus-Christ pour leur vie? Si c'est ton cas ce matin et que ta vie n'est pas encore en règle devant le Seigneur, ne perds pas de temps. Le salut est possible pour toi encore ce matin et nous t'invitons à ne pas repartir avec ton sac plein, mais à le laisser au pied de la croix de Jésus qui est venu pour cela. Est-ce que aussi, en tant que chrétien, il ne m'arrive pas parfois de me tenir éloigné du sacrifice de Jésus-Christ et donc de le rendre inutile? Soit par orgueil, soit par culpabilité destructrice, soit pour une situation non réglée de ma vie. Dieu avait prévu que ma vie chrétienne allait être semée d'embûches. À chaque fois que la scène passe, c'est aussi une occasion nouvelle d'être pardonné et réhabilité à la table du roi. Finalement, je dirais que tous les chrétiens ont besoin de prendre la scène régulièrement pour se rappeler que nous sommes au bénéfice de son sacrifice et rendre efficace dans notre vie ce qu'il signifie, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Ils en burent tous. Dans le repas du Seigneur, il y a un double aspect communautaire. Dans la Pâque juive, c'était le père de famille qui donnait le sens de la Pâque juive avant qu'il prenne les éléments. Jésus va nous laisser et nous donne le sens de la scène et institue par là même une nouvelle famille spirituelle où Jésus est au centre car son sang a été répandu pour chacun des membres de la communauté. Ainsi, la communion est verticale vis-à-vis de Dieu et également horizontale vis-à-vis de ses frères et sœurs. C'est pourquoi il est important de maintenir l'unité tant que cela dépend de toi, pour ne pas rompre le lien familial que Jésus lui-même a institué en le payant de sa vie. Alors dans le texte, c'est dit pour plusieurs, certaines versions disent beaucoup, voire une multitude. Donc le sang de Jésus a été répandu pour beaucoup. Pour tous les hommes qui croiront que Jésus est le Seigneur et Maître de leur vie et qui auront une attitude digne en discernant ainsi le corps et le sang du Seigneur dans ses éléments. Je vais vous lire l'extrait d'un article qui est paru dans Servir en avril 2008 et qui a été écrit par quelqu'un que beaucoup d'entre nous connaissent, Marcel Rottenauer, sur la Sainte-Seine et la dignité dans la Sainte-Seine. La dignité réside non dans la personne qui participe, mais dans la manière de participer, c'est-à-dire dans la vérité, devant Dieu par la foi, devant les autres dans l'humilité. Discerner le corps du Christ n'est pas de l'ordre du savoir, mais de l'être. Ne mentir ni à soi, ni à Dieu, ni aux autres. Ne méprisez ni mon frère, ni la sainteté de Dieu. » Alors il y a des restrictions que nous donne Paul aux chrétiens de Corinthe. Et on voit ça en 1 Corinthiens au chapitre 11. « Car certains prenaient la scène de manière indigne, c'est-à-dire qu'ils ne discernaient pas le corps et le sang du Seigneur. Ainsi, par extension, on peut aussi considérer aujourd'hui que certaines exceptions existent. Forcément, ceux qui ne croient pas ou qui ne veulent pas croire ne vont pas discerner le corps du Christ. Et si on regarde bien, dans trois des quatre évangiles, on s'aperçoit que Judas n'était plus présent lors de l'instauration de la Sainte Cène. Jean 13, verset 30, juste après que Jésus annonçait qu'il le trahirait, « Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir, il faisait nuit. » Et après, il y a l'instauration de la Sainte Cène. Mais il y a aussi les chrétiens, ceux qui ont rompu la communion avec un frère, avec une sœur ou avec l'Église, sans avoir essayé de se réconcilier. Il y a ceux aussi qui croient, mais qui pendant un temps maintiennent un péché volontairement dont ils ont conscience et qu'ils laissent s'installer, voire qu'ils alimentent. Ce qui est complètement différent, et je le précise tout de suite, de ceux qui luttent avec le Seigneur au quotidien pour se sortir d'un péché récurrent. Ce qui est complètement différent et qui ne fait pas partie des exceptions, que ceux qui luttent contre un péché récurrent avec le Seigneur au quotidien ne sont pas exclus de la Sainte Cène. Mais donc l'abstention de scène est donc aussi possible pour les chrétiens. Néanmoins, elle doit être temporaire. Le but étant de régler le plus rapidement possible les choses avec le Seigneur avant que le péché ne s'installe. L'abstention de scène n'est pas une solution à long terme pour le chrétien. C'est une période transitoire. La scène, c'est le scanner pour les chrétiens, pour examiner la manière dont nous nous présentons devant Dieu, c'est-à-dire conscient de notre état d'indignité, mais sûr de la plénitude de la justification acquise par Jésus-Christ à la croix. Conscient de notre état d'indignité, mais sûr de la plénitude de la justification acquise par Jésus-Christ à la croix. Alors, à partir de quand prendre la scène? Notre Église fait partie des CAEF, Communauté des Assemblées Évangéliques de France, qui fait elle-même partie du CNEF, Comité National des Évangéliques de France. Et nous sommes une Église de professants. C'est-à-dire que nous considérons comme membres à part entière toutes les personnes qui professent la foi en Jésus-Christ et qui souhaitent ainsi être au bénéfice du sacrifice de Jésus pour leur vie. À chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous déclarons notre communion au Seigneur et notre communion aux frères et sœurs avec qui nous la partageons. Cette déclaration de foi au Seigneur Jésus est en fait une répétition de la confession de foi réalisée pour la première fois lors de notre baptême. Il n'y a pas de règle en ce sens. Chaque communauté fonctionne comme il lui semble bon. Nous considérons à Sonra que si tu es prêt à prendre la scène, c'est donc que tu es prêt à te faire baptiser. Ainsi, nous pensons qu'il est préférable d'être baptisé pour participer au repas du Seigneur afin de ne pas griller les étapes. Qui sont donc? Le baptême, c'est le départ. Le baptême, c'est la ligne de départ. C'est l'entrée officielle dans la communauté des croyants par témoignage public et volonté d'attachement au Seigneur Jésus. Ensuite démarre, symboliquement, puisqu'elle a déjà démarré avant, à la conversion, la vie chrétienne. Voilà, et c'est une course, avec des hauts, avec des bas. Et la Sainte-Seine, c'est tous les points de passage, ce repas communautaire que nous prenons régulièrement, nous sert à nous souvenir et à nous renouveler notre volonté de demeurer attachés au Seigneur Jésus. Alors si tu es dans ce cas ce matin, le but n'est pas de t'enfoncer, pas du tout, mais simplement de t'encourager à contacter les responsables de l'Église et de demander le baptême, afin de remettre les choses dans l'ordre logique. Voilà. Pour résumer, le baptême symbolise le jour où tu es né spirituellement, et la scène symbolise tous les jours où tu dis à ton Père Céleste que tu l'aimes, pour ce qu'il est, et ce qu'il a fait pour toi, et pour tes frères et sœurs. Le baptême symbolise le jour où tu es né spirituellement, et la scène symbolise tous les jours où tu dis à ton Père Céleste que tu l'aimes, pour ce qu'il est, et ce qu'il a fait pour toi et tes frères et sœurs. Dernier aspect, le retour du Seigneur. Jésus va dire qu'il ne boira plus de vin jusqu'à qu'il le boive nouveau dans le royaume de Dieu. Cette promesse nous renvoie à la résurrection de Jésus-Christ, qui est indissociable de son sacrifice. Car c'est elle qui nous permet de vivre en nouveauté de vie avec lui comme soutien et guide de nos vies. Cette promesse nous renvoie également au vin nouveau des noces de l'agneau de l'Apocalypse et annonce le retour prochain de Jésus-Christ en gloire. Lorsque nous prenons la scène, nous annonçons donc la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et nous annonçons son retour prochain. Pour conclure, quand je participe à la scène, je me souviens de l'essentiel pour ma vie. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ me délivre de l'esclavage du péché. Je me rappelle que Jésus-Christ est l'aliment de base de ma vie, dans lequel je peux puiser mes forces quotidiennes. Je me rappelle que Jésus-Christ a scellé lui-même une alliance avec moi, basée non sur mes œuvres, mais sur son œuvre à la croix. Je me rappelle que Jésus-Christ donne et offre gratuitement son pardon à qui le demande sincèrement. Quand je participe à la scène, je suis en communion avec Dieu et avec les frères et sœurs qui sont au bénéfice du seul et unique sacrifice de Jésus-Christ. Quand je participe à la scène, je suis conscient de mon état d'indignité, mais sûr de la plénitude de la justification acquise par Jésus-Christ à la croix. Quand je participe à la scène, je renouvelle mon engagement de faire tous mes efforts pour le suivre au quotidien, en me tenant éloigné du péché, en saisissant sa victoire sur le péché dans ma vie. Et dernièrement, quand je participe à la scène, je me projette vers un avenir glorieux de fête aux côtés de mon divin maître. Pour finir, je nous laisserai ce proverbe anonyme avant qu'on puisse chanter le chant 769 qui dit « Jésus-Christ » et « Merci pour la croix ». La gratitude, ce n'est pas voir le cadeau, mais d'abord celui qui l'offre. La gratitude, ce n'est pas voir le cadeau, mais d'abord celui qui l'offre. Amen.